droit. Mode d'emploi.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires avec Gilles au micro et Claude à la technique. Ce soir, une émission spéciale rentrée que j'ai fait pour la quatrième année consécutive, un tour du monde en événements riches et idiots, drôlatiques et angoissants, percutants et insignifiants. Une tournée mondiale d'événements renversants, cruels, édifiants. Quel que soit le continent, le pays ou la région traversée, le voyageur d'une heure ce soir pourra constater que le monde est resté fou, que nos dirigeants sont restés pour la plupart des dictateurs sanguinaires et que, surtout, l'année 2014 peut être jetée à la poubelle sans honte et sans regret. Je me suis servi pour cette émission des articles de Courrier International et du Canard Enchaîné. Janvier. Un ambassadeur palestinien à Prague est mort lors de l'explosion de son propre coffre-fort. Janvier encore. Vladimir Poutine pour un décret qui fixe le nombre limite de participants aux manifestations. On ne sait pas s'il fournit les calculatrices aux policiers qui ne savent pas compter. Puisqu'on vous dit que la Russie est une grande démocratie. Janvier toujours. En France, il faut contrôler les chômeurs. Écoutons ce qu'en dit Ludo dans l'émission 886 du 31 janvier 2014.
Donc je précise que je tire mes informations du Monde de cette semaine et qui dit qu'en fait de façon très très discrète, c'est-à-dire sans faire publicité, Pôle emploi est en train de fliquer à tout va. Alors vous me direz c'est pas une nouveauté, sauf que en fait ce qui se passe, enfin le contrôle de Pôle emploi, et c'est malheureusement ce qui se passe aussi à la CAF et à mon avis dans d'autres administrations comme les impôts, c'est qu'on est en train de passer par des moyens à la fois administratifs et de faire aussi du flicage numérique en fait, donc en l'occurrence à l'encontre des chômeurs. Donc je rappelle pour le petit historique que le premier enfin, peut-être pas le premier acte, mais la première des choses qui avait été mis en place pour, c'était à l'intention des RMistes, parce que évidemment les RMistes étaient des fraudeurs invétérés. Et puis globalement, ils gagnaient trop d'argent aussi, ça faut le dire. Hein. Donc effectivement, le contrôle, donc le décret de contrôle des chômeurs, de train de vie des chômeurs, c'est-à-dire permettait aux agents de la CAF notamment de croiser les ressources supposées. Des RMistes et de faire des visites quand j'y croisais, c'est-à-dire croiser avec d'autres fichiers, hein. Et donc on a appris récemment qu'ils ont même effectivement accès désormais au compte en banque et donc effectivement bon on savait hein, de toute façon que la CAF de plus en plus croisait avec les avis d'imposition. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'en fait avait même accès, si vous voulez, au patrimoine en fait supposé des chômeurs. Et d'ailleurs c'était un point commun avec l'Allemagne pour le cas de Hartz-IV, où dans certains cas le service de l'emploi allemand avait la possibilité de servir dans le patrimoine pour payer les allocations du chômeur, c'est-à-dire de considérer que le patrimoine du chômeur pouvait lui permettre de se payer ses propres allocations. Bon, c'était un aparté, mais la CAF avait la possibilité de faire des visites à domicile et de demander aux RMistes de l'époque de justifier, je sais pas, de sa chaîne IFI, vous avez dans le salon. Des factures, etc. Voilà, c'était le thème du contrôle. Et donc ça avait commencé comme ça, hein, par la catégorie la plus faible. Donc il y avait aussi cette obligation de recherche d'emploi qui avait été imposée. Et donc là, on est passé... alors, la possibilité désormais, et donc on le sait, d'aller regarder sur les comptes en banque, donc d'aller s'adresser à Bercy. Et là, pour lutter contre la fraude, désormais, d'avoir recours à la déclaration préalable d'embauche.
Oh la vache, ça c'est dur.
Voilà. Et alors, ouais. Tenez-vous bien, selon le Monde, il s'agit, c'est-à-dire que chaque jour, donc c'est l'URSSAF qui gère ça, transmet les données qu'elle reçoit à Pôle emploi. Et c'est-à-dire que votre conseiller a la possibilité désormais, quand vous l'avez en face de lui, de consulter votre dossier. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est le numéro URSSAF de la personne? Est-ce que ça transite sur le numéro de sécurité sociale? J'en sais rien. Enfin, vous imaginez, hein, qu'à partir du moment où vous rentrez maintenant dedans, à Pôle emploi, vous avez eh ben demain Pôle emploi peut enquêter sur vous, donc votre vos revenus fiscaux, ça il y a guère de doute, votre compte en banque, et voir et éventuellement bon bah vos démarches à côté pour trouver chercher un emploi et trouver éventuellement, parce que là et donc en temps réel hein, quand même. Ouais. En temps réel, donc votre conseiller pourra dire ah ben là, monsieur, vous avez signé justement un contrat. Ah oui, j'ai signé hier, monsieur, ça peut être ça. Et donc évidemment, il s'agit de lutter contre alors les fraudes, mais enfin, je ne sais pas frauder effectivement. Désormais, frauder Pôle Emploi tout en étant embauché à côté, c'est quand même moi je dirais très risqué. Donc moi, identifier les fraudes, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre. Ou mais plus de façon plus certaine, c'est les indus potentiels. Donc les indus potentiels, c'est que les trois quarts du temps, les gens n'ont pas encore touché leur salaire et ne déclarent pas effectivement ce qu'ils n'ont pas touché. Et donc c'est un espèce de retard de déclaration. Ce qui fait qu'à la fin, eh bien, on vous demande la somme. Et donc, effectivement, ça part d'une très bonne intention, tout ça. Il s'agit de d'identifier au préalable les personnes qui vont être embauchées et de récupérer les indus préalables qui seront à peu près à 800 millions d'euros versés par erreur.
Février. Le gouvernement Hérault remballe son projet sur la famille. Il faut dire que les familles bourgeoises et chrétiennes ont fait pression. Ils sont même contre l'ABCD de l'égalité. Rappelons ici que dans les rallyes du 16e, les filles apprennent à bien tenir la table. Quant aux hommes, ils fument le cigare et mettent le pied dessous. Les bourgeois sont comme des cochons. Ils ne sont ni modernes, ni progressistes, mais réac. Février encore. Le deuxième état le plus riche de la planète ferme son unique maternité. Les femmes de ces petits pays devront aller accouché sur la lune. Février toujours, les banquiers à Davos qui refont le monde à l'identique. Écoutons ce qu'en dit Magali dans l'émission d'Attaque le 14 février 2014.
Et tous ces belles gens, ONG pro-capitalisme, tous les hommes politiques se réunissent pour faire du ski à Davos.
Oui, tout à fait, puisque en parlant de banquiers, ils ont effectivement cette réunion tous les ans à Davos. Alors cette année, c'était du 22 au 25 janvier, et l'ensemble de ces décideurs de ce monde. Alors les décideurs, c'est qui? C'est 1500 chefs d'entreprise, une quarantaine de chefs d'État, enfin ceux qui ont bien voulu venir. Et ces décideurs,
ce sont les JO en même temps. Ouais.
Voilà, c'était pas évident là, fallait quand même ajuster son agenda. Donc ils se sont réunis à Davos comme chaque année pour refaire le monde. Alors quand les décideurs refont le monde, souvent c'est toujours un peu le même. Alors ils sont réunis autour, on dit souvent autour d'un café, puisque c'est Jacques Attali qui avait eu cette phrase de dire que Davos c'était un peu la machine à café du monde. Donc voilà, ils se sont réunis autour d'un café. C'est un espèce de repas de famille finalement, politico-financier, et cette année il avait pour thème remodeler le monde. Alors vous remarquerez que c'est pas changer le monde, hein, c'est le remodeler, c'est-à-dire modifier un peu sa forme, faire un lifting, le rendre un petit peu plus esthétique. Alors surtout, ne pas s'attaquer aux causes profondes du caractère défectueux d'un système qui pourtant nous semble un petit peu à bout de souffle. Alors ce qui semble ressortir de ces échanges pendant ces quelques jours, c'est un certain regain d'optimisme, selon la presse, des dirigeants de cette planète. Optimisme pourquoi ? Parce qu'il y aurait une reprise de la croissance dans certains pays, notamment aux États-Unis. Le banquier central du Japon l'a résumé ainsi, il a dit « Nous pouvons être prudemment optimistes pour la perspective économique mondiale ». Donc voilà, l'ambiance à Davos, c'était un optimisme prudent. Alors, le dérèglement climatique, lui, s'accélère, les ressources naturelles s'épuisent, les inégalités mondiales s'aggravent. Il y a eu même un rapport d'Oxfam qui a été publié juste avant Davos, le 20 janvier, qui indiquait que les richesses du monde sont divisées en deux. Il y en a près de la moitié qui sont entre les mains des 1% les plus riches, et 99% de la population mondiale, quant à elle, se partage l'autre moitié.
Ouais, mais c'est une question de mérite, ça.
Voilà, c'est la méritocratie. Donc, la moitié de la population mondiale possède l'équivalent de la richesse détenue par les 85 personnes les plus riches du monde. Ça donne une idée un peu de l'état des inégalités dans le monde. Mais malgré ça, Davos retrouve le sourire. Donc à l'heure actuelle, on se dit, pour trouver une source d'optimisme dans un spasme de croissance, il faut soit faire partie de ces 1% les plus riches de la planète, hein, je crois que c'est le cas de la plupart des participants de Davos, soit refuser de comprendre que la religion de la croissance, c'est pas la solution, mais plutôt une des sources du problème. Et ça, je crois que c'est aussi le cas d'une grande majorité des participants de Davos, manifestement. Pourtant, il a été prouvé depuis les années 70 que la croissance du PIB et l'empreinte écologique étaient intimement liées. Alors, l'empreinte écologique, c'est toutes les ressources naturelles dont on a besoin, tout ce qu'on consomme sur la planète pour assurer nos besoins, notre consommation. Et donc, cette empreinte écologique, ces impacts sont sans cesse plus forts à mesure que le PIB augmente. Il a été aussi démontré qu'au-delà d'un certain revenu par habitant, le niveau de bien-être d'une population n'augmentait que de façon extrêmement marginale. Donc aujourd'hui, à l'heure où on consomme l'équivalent d'une planète 0,8 pour nos besoins, que normalement autour du 21 août, l'ensemble de la planète a consommé tout ce auquel elle avait droit, il serait peut-être temps de se poser la question de quelle croissance, est-ce que c'est encore aujourd'hui soutenable de parler de croissance du PIB? La question ne devrait-elle pas plutôt être... comment refondre le système économique mondial pour qu'il s'intègre dans les limites environnementales de la planète tout en permettant une meilleure redistribution des richesses? Et même le rapport sur les risques mondiaux qui a été publié dans le cadre de ce forum de Davos a reconnu que les risques économiques, sociaux, écologiques, géopolitiques sont interconnectés et susceptibles de déclencher à court terme, je cite, un choc systémique.
Un choc systémique.
Ce nom a été prononcé dans le rapport de Davos. Et pour faire face à ce fameux choc systémique, les dirigeants donc se réunissent tranquillement pour parler remodelage. Donc voilà qui rend très optimiste. C'est un peu comme... Ça me donne envie de citer du Jacques Chirac, si je peux me permettre.
Allez-y, Chirac.
La maison brûle et pourtant le monde regarde ailleurs. Je dirais même la maison brûle et les grands leaders se demandent si ça va permettre de relancer le marché des extincteurs.
On apprend en mars que Buisson, le plus droitier des conseillers de Sarkozy, enregistre sur des cassettes son cher patron et tous les proches de ce dernier. Qu'est-ce qu'on se marre en haut lieu? Mars encore. Héro perd sa ville et il est viré par Hollande. Nous on s'en fout. Il n'a qu'à prendre l'avion à Notre-Dame-des-Landes. Mars toujours. Algérie. Bouteflika, 77 bougies, postule pour un quatrième mandat. Quelle santé! Et en Russie, Poutine annexe la Crimée. Sinon en mars... Le modèle low cost dans les compagnies aériennes est le sujet de l'émission 894 de la Fondation Copernic le 28 mars 2014.
Alors, je rebondis sur cette répression syndicale. Peut-être Mathieu, si on enchaîne justement sur comment un peu combattre ce modèle, si on fait un historique des principales luttes syndicales ou en tout cas des combats qui auraient pu être gagnés ou qui ont été gagnés dans le secteur de l'aéronautique, qu'en est-il?
Sur les combats spécifiques sur les locaux, il y a eu quand même surtout des combats juridiques, hein, donc on les a commencé un peu à les évoquer aussi donc de par les salariés, donc ce qu'on évoquait notamment en France, de par les consommateurs, parce que il y avait un certain nombre de clauses abusives, donc il y a eu des attaques de ce type-là. Le transport aérien est un milieu dans lequel, de toute façon très régulière, il y a des luttes syndicales, mais qui sont souvent très éparpillées et assez peu liées. Après, sur le fait de combattre ce modèle, moi je crois pas qu'on peut imaginer se dire que on va combattre uniquement le modèle low cost contre un modèle plus traditionnel qui resterait tout seul. Aujourd'hui, on est dans une situation de libre concurrence clair, et on peut pas uniquement, et c'est cette libre concurrence qui a fait émerger les low cost. On peut pas se contenter de dire il faut supprimer les low cost pour favoriser les majors. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce qu'une régulation du transport aérien est nécessaire? Et moi, évidemment, on pense que la réponse est oui. Et d'une façon un peu aussi d'avoir des trucs qui soient aussi pour nous passagers, pour nous consommateurs, quelque chose d'un peu rationnel. Aujourd'hui, vous avez des dizaines d'allers-retours Paris-Londres tous les jours, qui se font parce qu'il y a de la concurrence sur des moyens porteurs, donc des plutôt des petits avions, avec énormément d'allers-retours aux mêmes horaires. Bon, une façon un peu cohérente de régir le transport aérien, c'est d'avoir des plus gros porteurs et moins nombreux. Ça veut dire une baisse des coûts pour tout le monde, ça veut dire moins de nuisances, ça veut dire moins de pollution, ça veut dire plein de choses. Bon, et quand on parle en plus de Paris-Londres, il y a un train aussi quand même qui relie les deux, donc ça veut dire effectivement quelle réflexion collective on a sur le transport et comment on veut aménager le transport. Aujourd'hui, au vu de l'échelle, cette réflexion elle doit avoir lieu à un niveau européen, mais ce qu'il faut effectivement, c'est quelque chose qui puisse être capable d'assurer un service public du transport aérien, du transport tout court d'ailleurs, mais ça au niveau européen.
Jean, quelques mots là-dessus, sur ces aspects, parce que tu as, là encore, une fois de plus, dans les papiers qu'on a oui. pu lire, tu as beaucoup travaillé, hein, les aspects juridiques qui ont pu être, y compris le rôle de la Commission européenne sur ces sujets. J'ai lu aussi que tu expliquais en particulier que finalement, c'est ce qui vient d'être dit, hein, d'ailleurs, par le représentant de Sud ici, c'est que les États font pas grand-chose dans l'affaire, finalement.
En Belgique, en tout cas, il n'y a rien qui se fait.
Voilà, c'est ça.
Pourquoi il n'y a rien qui se fait ? Parce qu'il y a en gros la question de l'emploi qui est quand même là, non pas liée à la compagnie, mais liée aux aéroports. Donc les aéroports développent de l'emploi et c'est ça qui tient en quelque sorte les politiques. Et en Belgique, il y a aussi la dimension communautaire qui doit être mentionnée. C'est que l'aéroport national est en Flandre et l'aéroport de Charleroi est en Wallonie. Donc cette question des aéroports, elle se double aussi, donc de l'emploi dans les aéroports, elle se double aussi d'une tension communautaire en Belgique. Et donc les grands acteurs politiques préfèrent se taire sur le sujet et créer toutes les conditions pour que les compagnies aériennes puissent se développer, quel que soit leur modèle.
Quelles soient les conditions.
Mais, donc voilà une démission de la classe politique belge, ça je pense c'est tout à fait clair. Au niveau européen, il y a eu, mais je pense que vos interlocuteurs en studio auront sans doute les dates plus en tête que moi, mais je pense que c'est en 2012, il y a eu un vote du Parlement européen qui essayait de freiner en quelque sorte le dumping social. Donc moi je pense que le combat qui est important aujourd'hui, c'est peut-être d'abord et avant tout un combat contre le dumping social. Et donc de permettre à l'ensemble des travailleurs du secteur aéronautique de bénéficier de conditions de travail décentes. Et quand on voit le résultat de ce vote, Ryanair devrait appliquer la sécurité sociale qui est à l'œuvre dans les pays dans lesquels les gens ont leur base de rattachement. Donc si je prends la Belgique, les travailleurs de Ryanair qui sont rattachés à l'aéroport de Charleroi devraient bénéficier de la sécurité sociale belge. Mais il se fait que Ryanair a une période de 10 ans pour se mettre en conformité. Et 10 ans, quand on voit les tensions, quand on voit les problèmes que connaissent certaines compagnies aériennes, c'est excessivement long.
Dans les cités, les bidonvilles, le pape bénit la pauvreté. Ça passe le temps, ça tient tranquille, ceux qui n'ont plus rien à becter. Et puis le très Saint-Père a dit, faut faire des gosses.
Dans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Dis monsieur, je te crois pas, t'oublies qu'aujourd'hui c'est dimanche. Jamais la Vierge n'avortera, on l'appelle sainte, pas faiseuse d'ange.
Avril. Au Japon, le gouvernement vient d'opter pour une relance du nucléaire alors que la population est devenue antinucléaire, depuis Fukushima. Le Japon n'a pas de mémoire. En Russie, Poutine lance son plan de démantèlement de l'Ukraine devant une Europe muette. Aux armes, Ukrainiens ! Avril encore. Au Liban, le Parlement vote une loi contre les violences domestiques, mais les parlementaires, principalement des hommes, vident le texte de tout ce qui pouvait être une avancée pour les femmes. Et le texte laisse le viol domestique impuni. Ah, non seulement ces hommes-là n'aiment pas les femmes, mais ils les battent et piétinent leurs droits. Et ça dure depuis l'aube de l'humanité sur l'ensemble de la planète. Pas de quoi être fier, messieurs. Avril toujours. Au Nigeria, c'est le groupe djihadiste Boko Haram qui enlève 200 lycéennes promises à l'esclavage et au maillage forcé. Mais l'Europe s'empare du sujet sur le salaire minimum, depuis que les Américains près de Seattle ont commencé à débattre du sujet avec les salaires horaires minimum fédéral à 10 dollars. Et ce sera stoppé au Congrès, car les vieillards qui y siègent sont majoritairement républicains. L'Allemagne veut introduire dès 2015 le salaire minimum, et la Suisse aussi, et le plafonne même à 3281 euros mensuels. Mais encore, en France, la SNCF et le réseau ferré de France commandent 2000 rames de trains régionaux. 1300 des 8700 quais qui bordent les 30 000 km de voies ferrées sont trop étroits pour les nouveaux TER. Les crânes d'œufs ont oublié de parler de la largeur des voies, encore un projet inutile et coûteux qu'il faudra payer. Et c'est pas grave, c'est nous qui payons. Mais toujours, Égypte. Les Égyptiens sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président. Le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, un militaire à toutes ses chances. Allons, votons contre la démocratie et choisissons un uniforme. Événement national en France, c'est mon anniversaire. Je me le fête avec assez de verve et ne me permets pas qu'un autre me le fait. Juin encore, France. Il y a beaucoup de flotte dans notre plus vieille centrale nucléaire, Fessenheim. Le réservoir qui sert à refroidir les équipements non nucléaires est touché. Court-circuit, arrêt d'un réacteur, affolement général, personne ne sait ce qui se passe. Puisqu'on vous dit que le nucléaire c'est l'avenir, l'incident est arrivé le 9 avril, 2 mois pour être informé, c'est rassurant, non ? En cas de catastrophe majeure, on aura bien 2 mois pour tous crever.
À la manif, on était tous un peu.
Juillet, Italie. 30 migrants sont morts asphyxiés sur un bateau au large de la Sicile. Juillet encore, USA. Obama débloque 500 millions de dollars pour financer les opposants syriens. Juillet toujours, le conflit israélo-palestinien. Après la mort de 3 adolescents israéliens, les Israéliens se vengent, l'équilibre est brisé, le processus de paix remis en cause, et s'attire à nouveau de tous les côtés. Un conflit qui risque de durer encore un millénaire. À quand un État palestinien ? Juillet encore, monde arabe, les fanatiques musulmans créent un califat en prenant l'islam comme solution fanatique. Arrogance, charia et schizophrénie. La notion de liberté est présentée comme spécialité de la culture occidentale et non comme un principe universel. Est-ce qu'ils ont des psychiatres au Moyen-Orient ? Août. En France, Valls déclare son amour au patron du MEDEF. Il est ovationné. Le socialisme est bien mort. C'est Louis Blanc, Jaurès et Léon Blum qui doivent se retourner dans leur tombe. Les 3/4 des sommes versées dans le cadre du CICE à Radial, la boîte de Gattaz, ont servi aux augmentations des dividendes des actionnaires, nous dit le canard enchaîné. Et ça vous étonne ? En Angleterre, à Londres, les immeubles ont 2 entrées. L'une est dans la rue, avec un vaste hall bien éclairé et bien bourgeois, et l'autre est à l'arrière, dans une ruelle où passent les livraisons, pour les pauvres. Sinon, en août, en Palestine, la guerre continue, et les Palestiniens en ont marre du Hamas. Septembre, Écosse. Les Écossais votent le 18 septembre pour l'indépendance. Ils resteront malheureusement soumis à l'Angleterre. C'est leur décision. Ni Dieu, ni maître. Avec les Écossais, c'est plutôt avec Dieu et la reine. Septembre encore. À Mossoul, à l'ouest de l'Irak, l'État islamique instaure la journée de divertissement avec ballons de foot et concours de mémorisation et de récitation du Coran. Vous savez, ce livre saint que les djihadistes lisent avec les pieds. Une journée par an pour se divertir et tout le reste de l'année plongé dans l'obscurantisme, la répression et la paranoïa. Septembre toujours. En France, les chercheurs étaient dans la rue. Écoutons ce qu'en dit l'émission d'attaque le 12 septembre 2014.
Un des problèmes dans le fonctionnement actuel de la recherche en France, c'est l'autonomie des chercheurs d'une structure comme le CNRS, des universités, etc. L'autonomie est un problème. Et une des solutions pour réduire cette autonomie, c'est d'augmenter la précarité. Donc c'est un discours qui est juste le contraire de ce que disent les chercheurs. Les chercheurs disent, si vous voulez qu'on soit créatif, si vous voulez qu'on invente, si vous voulez qu'on propose des choses complètement nouvelles, il faut nous laisser créer. Et on va, ne nous enfermez pas. Et des activités de recherche à long terme, ça peut pas être fait par des gens précaires. Donc nous on dit l'autonomie est une condition à la créativité, la précarité est un problème pour cette créativité, et en face on nous dit juste au contraire. Pour les gens qui veulent piloter, c'est l'autonomie le problème et la précarité une solution. Alors, je finis juste de répondre à ta question. Pourquoi est-ce que le gouvernement ferait pas ça? Mais parce que ce que peut faire le gouvernement, c'est de dire, je mets par exemple telle enveloppe pour la recherche, donc je donne des grandes directions, mais il est hors de question que dans le détail de l'activité des chercheurs, ça soit le gouvernement qui dise vous devez travailler sur tel sujet plutôt que sur un autre. Or, c'est ça qui est en train de se passer. Et les directions dans lesquelles nous, on est censé travailler, sont pas données par des chercheurs en France, mais sont données par des administratifs, des ministères, qui se disent « Ah ben, ça serait bien qu'ils fassent ça ». Des gens qui connaissent rien à la recherche.
Et si l'objectif ne doit pas être uniquement la compétitivité, quel doit être l'objectif de la recherche ?
Mais les objectifs de la recherche sont multiples. Un des objectifs pour moi qui est très important, c'est de permettre qu'il y ait un enseignement supérieur de haut niveau. Nos pays ont besoin d'universités, d'un enseignement supérieur de haut niveau, et pour ça il faut que les gens qui enseignent dans les universités soient en lien avec la recherche. Et l'enseignement supérieur est important parce que le fait d'accéder à ce type d'éducation, ça permet de recevoir un capital social qui, en principe, quand les universités sont d'accès démocratique, est ouvert pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a théoriquement, ce dont je rêve, c'est que des fils d'ouvriers qui n'ont pas de capital financier au départ, si les universités leur sont ouvertes, s'ils apprennent des choses et s'élèvent dans l'échelle sociale, les universités peuvent être un moyen important de réduction des inégalités sociales. Donc ça, c'est un objectif important pour l'enseignement supérieur et la recherche qui va avec. Un autre, c'est que dans le monde très complexe dans lequel on vit, on a besoin d'experts. Quand on voit qu'il y a des problèmes, par exemple, avec des pesticides, avec des OGM, etc., on a envie qu'il y ait des scientifiques qui soient indépendants des multinationales, qui puissent donner des avis. Donc cette expertise indépendante, ben, ça va avec la recherche, l'enseignement supérieur. Donc voilà deux raisons qui n'ont rien à voir avec l'économie. Ceci dit, il y a aussi certaines recherches qui débouchent sur des innovations et qui permettent de booster l'économie. Moi, je suis pas opposé à ça. Ce à quoi je suis opposé, c'est qu'on réduise l'activité de recherche à uniquement ce qui peut être rentable.
Alors tu parlais de l'importance d'avoir du personnel permanent pour laisser libre cours à la créativité du chercheur sans être omnibilé par la fin de son contrat. Un argument de l'OCDE, c'est au contraire de dire que les projets de recherche peuvent changer, donc il faut pouvoir allouer de manière dynamique les ressources humaines, ce qui nécessite des contrats courts au gré des besoins.
C'est-à-dire que ce type de directive, c'est ce qu'on appelle le New Public Management, c'est-à-dire, ou le nouveau management public, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été mis en place par des gens qui sont convaincus que la forme d'organisation sociale suprême, parfaite, ce sont les entreprises. Et les entreprises dont l'objectif, c'est de faire d'avoir un maximum de rentabilité. Et dans une entreprise comme ça, eh ben, il faut qu'il y ait à la tête un manager qui a de très grands pouvoirs, et puis que dessous, on obéisse, et qu'il y ait une seule finalité, maximiser les profits. Et on va organiser le fonctionnement de l'entreprise de cette façon-là. Or, appliquer ce type de règles dans des structures où l'objectif n'est pas la rentabilité, je donne un exemple, l'école. Pourquoi est-ce que l'école primaire serait organisée selon les règles du New Public Management? Pourquoi est-ce que l'hôpital, qui est censé offrir des soins à tout le monde, serait organisé selon ces règles-là? Pourquoi la recherche aussi? Donc, c'est une absurdité d'appliquer les règles du New Public Management à des secteurs dont l'objectif réel, tout le monde le sait bien, que apprendre à lire à des gamins, ça n'est pas pour avoir une rentabilité immédiate. Donc il y a une absurdité dans cette façon de nous imposer des règles de fonctionnement qui ne sont pas adaptées à notre activité.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Octobre. En Syrie, les manuels scolaires pour les classes primaires incitent les enfants à écrire et réfléchir sur des textes antisionistes. Dans d'autres manuels, des milliers de morts et des millions de réfugiés ont été gommés. Un déni de réalité qui fera des bons enfants syriens de bons petits soldats, sans conscience. En même temps, personne ne connaît de soldats avec une conscience. Le Moyen-Orient ne serait alors qu'un assemblage de sectes religieuses. Octobre encore, en Arabie Saoudite, un journaliste de 30 ans a écopé de 10 ans de prison, 214 000 euros d'amende et 1000 coups de fouet, à raison de 50 coups de fouet donnés chaque vendredi après la prière. Son crime? Avoir écrit sur son blog deux phrases assassines. La première portait sur la possibilité de ne pas croire en Dieu, et la deuxième concernait certains imams saoudiens qui prêchaient la guerre sainte. Octobre toujours, en France. Les inspecteurs du travail n'ont plus les moyens pour bien travailler. Pour inspecter les entreprises, écoutons l'émission d'AC du 12 octobre 2014.
Alors, je voulais juste, pour faire la transition ce qu'on vient de décrire sur un peu le travail idéal, le travail qu'on vient de décrire sur comment soit on suit les chômeurs, soit on fait appliquer le droit du travail, un peu le sens du métier. Ça, c'est tout très beau. Il faut savoir que, bon, en ce qui nous concerne, les réalités du terrain, elles nous rattrapent un peu, hein, après tout ça. D'abord, c'est face à la généralité de la fraude patronale. Déjà, faut commencer. C'est pas des épiphénomènes. C'est tout le système économique qui est basé soit sur moi je fraude, soit je confie la fraude à un sous-traitant qui va le faire à ma place. Donc ça à contrôler, c'est extrêmement difficile. C'est une masse de fraude qui est très difficile à appréhender. Alors face à ça, on a des faiblesses de moyens. D'abord en termes de moyens légaux, quoi. On peut pas tout demander. Il faut justifier de chaque demande. Tous les documents sont pas à disponibilité. Évidemment, c'est plus facile pour un employeur de ne pas remplir un certain nombre de documents, quitte à se faire attraper, parce que bon, il sait qu'il s'en sortira. On verra pourquoi plus tard. Donc il y a une faiblesse de moyens de contrôle. Alors pourquoi l'employeur a plutôt intérêt à faire le dos rond face à une demande de l'inspection du travail? Bah, c'est que en fait la condamnation, elle peut faire peur. Mais s'il connaît un peu les rouages, il sait que les chances de se faire condamner sont quand même assez faibles. L'absence de suite est notre grand problème, quoi. Faut voir ce que c'est qu'un tribunal de grande instance, où sont jugés la majorité de nos procès-verbaux. Un tribunal de grande instance, ça juge tout sur un département. Ça juge les vols avec violence, les dégradations, les voitures brûlées, etc. Ça, c'est juste pour, on va dire, la petite incivilité, encore, à ce stade. Ça juge les stupes. Donc ça juge à peu près tout ce qui ne relève pas de la cour d'assises en délit, hein. Plus si on rajoute à ça les fraudes à la consommation, les fraudes à la vente, le fisc, etc. Bon, bah après là-dedans, dans tout ça, le procureur, il est débordé, il se retrouve avec une pile de dossiers dans lequel va peut-être, avec un peu de chance, dépasser un dossier sur entrave au comité d'entreprise d'une entreprise. Bon, son choix, il va être vite fait, hein. Lui, il a de l'abattage à faire, hein. C'est, au bout d'un moment, quand il arrive, ça devient sérieux. En plus, il est de tradition pour les procureurs de changer régulièrement de tribunal, donc pour ne pas rester toujours en place, hein, ça favorise, ça empêche les collusions, ça empêche, bon, voilà, je juge pas, c'est la magistrature. Résultat net, qu'est-ce que fait le nouveau quand il arrive? Ben, grosso modo, il prend une pile de tout ce qui lui a laissé le précédent et il le classe. Classement sans suite.
D'accord.
Donc, une bonne partie de nos procès-verbaux sont classés sans suite, non pas forcément parce qu'il n'y a rien dedans, mais parce que c'est compliqué, ça demande du temps, et il y a plus rapide, il y a des comparutions immédiates aussi à juger, etc. Donc tout ça, ça occupe le temps du tribunal. Donc un patron qui fait le mort, il a toutes les chances de s'en sortir. Alors en plus...
Il y a prescription au 3 ans, tu m'as dit, c'est ça?
Il y a les délits, oui.
D'accord.
L'entrave est un délit, mais c'est prescription au bout de 3 ans. D'accord. Voilà. Ça va vite, hein. Une affaire, elle est rapidement prescrite, et surtout s'il se passe rien, si le magistrat il fait pas la moindre procédure, et il a pas le temps forcément de faire des procédures sur tout ce qui lui est fourni, s'il fait pas la moindre procédure d'instruction, on arrive rapidement à la prescription. Alors il n'y a pas que ça. Alors ce qui est rigolo, c'est moi j'ai entendu Bérou dire le code du travail c'est trop lourd, il pose un gros code du travail sur la table en disant boum, ah vous voyez c'est énorme. Non mais nous aussi on est d'accord, le code du travail il est beaucoup trop gros. Parce que ça fait des années et des années qu'on fait de la gonflette avec et qu'on le bourre de dérogations. Alors c'est quoi la dérogation? C'est la loi dit quelque chose, ça c'est un article. Mais si on remplit telle ou telle ou telle ou telle condition, alors on peut déroger à la loi. Ça remplit 20 articles. Alors qu'est-ce qui alourdit le code du travail? C'est la mousse qui permet d'éviter la loi ou c'est la loi? Mais moi je dis c'est la mousse. Et si on avait un code du travail qui se contentait de dire la loi c'est ça, il pourrait faire 10 pages et on serait assez content en fait, parce que en réalité ça nous permettrait d'appliquer ça beaucoup plus facilement. Donc tout ça c'est des difficultés concrètes qu'on a sur le terrain, et une dernière qui a été soulignée de longue date, y compris par le Bureau international du travail, qui est quand même notre instance internationale de tutelle, c'est que on a une faiblesse dans les effectifs en France. On a longtemps été au niveau de l'Albanie en termes de nombre d'inspecteurs du travail par entreprise, quoi. Donc faut pas, voilà, c'est, on n'est pas en train, on n'est pas une fonction publique pléthorique qui est en train de pleurer parce que c'est l'habitude. On est une fonction publique qui est à sec, qui est déjà à l'os et qu'on va voir qui est en train en plus de se faire restructurer profondément, quoi.
Novembre. En Iran, une jeune femme de 25 ans s'est fait arrêter parce qu'elle voulait participer en tant que spectatrice à une rencontre sportive. Novembre encore. Dans le monde, le nombre de murs, de clôtures pour blessés et tués ne cesse d'augmenter, nous écrit Courrier International. On en compte aujourd'hui une cinquantaine. Moins d'une dizaine dans les territoires occupés, 5 en Afrique, le reste en Asie et au Moyen-Orient. Pour l'unification et l'amitié entre les peuples, on est bien parti. Novembre toujours. Alors que l'Ebola attaque le continent africain, en France, on réfléchit sur l'hôpital public. Écoutons l'émission de la Fondation Copernic du 28 novembre 2014.
Donc, vous avez vu toutes ces évolutions au sein de l'hôpital?
Oui, je ne serais absolument pas en contradiction avec les propos qui viennent d'être tenus. Et j'essaierai peut-être d'y mettre un peu de chair, si je puis dire. Oui, dans les années 80, en fait, les doctrines qui s'opposaient, c'est entre la maîtrise comptable et la maîtrise médicale des dépenses de santé. C'est le débat qui a fait rage à l'époque, et c'est la maîtrise comptable aujourd'hui qui prime sur le système.
Ce qui, je me permets de rajouter, est complètement vrai, et en même temps qui montre le côté étrange de l'appellation PMSI, programme de médicalisation des systèmes d'information, alors qu'en fait, c'est pas la médicale qui a gagné, c'est la comptable.
C'est
à mon avis, c'était plutôt une présentation marketing.
Voilà. Donc c'est vrai que c'était une époque de budget qui était dit inflationniste, mais en même temps qu'on arrivait à équilibrer en réponse à une demande de soins, à des besoins de soins par rapport à une population, et qui effectivement demandait à une époque certains rééquilibrages, d'ailleurs l'effort a été fait pendant une dizaine d'années, un certain assainissement des pratiques. Mais cet effort-là a été fait très rapidement par les établissements. Non, ce qu'on voit, bon, pour arriver directement sur la T2A, par exemple, on est dans le découpage. On n'a plus, plus affaire à un patient dans sa globalité. On va de plus en plus s'intéresser à une pathologie, à un organe. Donc on va découper.
À une somme d'actes.
Et donc on va chercher l'acte qui rapporte. Mmh. Par exemple, en gériatrie, la mycose du gros orteil rapporte.
D'accord.
Donc sur des patients qui vont être admis en gériatrie, on va trouver pléthore de mycose du gros orteil pour arriver, et là il faut, je mets des guillemets, à rentabiliser l'hospitalisation pour la personne.
Oui.
On va voir. Alors il y a un autre élément, c'est la charge de T2A, c'est-à-dire que la T2A, en fonction du temps, va plus ou moins rapporter. C'est-à-dire, plus, pour certaines pathologies, plus le patient va rester, moins il va rapporter à l'établissement parce qu'il va y avoir une décroissance de.
D'accord, donc on a intérêt à le faire rentrer chez lui.
Donc on a fait, par exemple, il y a des SAMU, il y a un ancien régulateur des SAMU qui disait que, en fait, c'était un ventilateur qui récupérait des patients, des personnes âgées souvent, dans un établissement qui était sortant pour les emmener à un autre établissement pour recharger, comme il disait, la T2A. Avec toutes les souffrances que ça implique.
Parce bien sûr, oui, oui, un transfert.
L'autre côté qui est compliqué, c'est les patients qui sont atteints de plusieurs pathologies. Donc arriver à faire le tri à l'intérieur, à voir lesquelles seront rentables ou pas. Et c'est là qu'on commence aujourd'hui à avoir des tris sur des pathologies rentables et des pathologies non rentables. Donc le secteur privé lucratif, par exemple, a très vite vu... vu l'aubaine de cette histoire, il y en a aujourd'hui des secteurs entiers géographiques où, pour certaines spécialités, on ne trouve plus que des cliniques privées lucratives.
D'accord. Par exemple,
Sur l'urologie, ça peut D'accord. se trouver, sur la cataracte.
D'accord.
Sur,
ouais.
Et alors, je voudrais citer un autre effet très pernicieux, et là où l'économique a masqué le politique, c'est autour de la fermeture des maternités pendant des années, et notamment des centres IVG. Parce que ce que politiquement les pouvoirs n'avaient pas réussi à faire, c'est-à-dire à s'attaquer au centre d'interruption volontaire de grossesse, l'économique l'a fait. Et il a fallu attendre que Mme Bachelot le reconnaisse, je ne sais plus, 3-4 ans, et double la tarification, qui n'est toujours pas suffisante pour répondre aux besoins, pour qu'on s'aperçoive qu'effectivement il y avait eu tromperie en la matière.
D'accord.
Sauf qu'entre-temps... Il y a des dizaines et des dizaines de centres IVG qui ont fermé pour des choix économiques faits par les directeurs.
D'accord.
Oui, sur ces exemples un peu pernicieux.
Bien sûr. Et le législateur, donc là vous citez justement l'exemple de Mme Bachelot qui réintroduit une augmentation de la T2A.
Sur la pression des associations.
Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que le législateur a essayé, ou est-ce que c'est l'objectif de la prochaine loi, hein, mais a essayé de, d'adapter la T2A ou d'aller...
Avant de répondre à ça, moi je voudrais pointer ce que ça fait aussi au niveau des rapports de pouvoir. Puisque là on parlait de l'IVG, avec la T2A, tel ou tel acte, telle ou telle spécialité peuvent être encouragés ou découragés par les pouvoirs publics. Donc ce que ça implique aussi, ce changement de tarification, c'est une espèce de centralisation de la politique de santé. La mise en place d'outils de gouvernement qui n'existaient pas avant au profit du pouvoir central et par le pouvoir central pour orienter ce qui se fait dans le pays en matière de soins.
Décembre. En Suisse, 93% des violences graves et 99% des viols sont le fait des hommes. Un artiste de Bâle propose un référendum sur l'expulsion du territoire des criminels de sexe masculin. Même suite. Décembre encore. En France, les patrons manifestent pendant que leurs ouvriers travaillent. Ils sont contre la loi sur la pénibilité. Pourtant, dans beaucoup de pays de l'Europe, ils ont adopté cette mesure. Ah, ces patrons nous font vraiment bien marrer. Finalement, d'ailleurs, on les plaint. C'est riche.
Nous les Français, c'est bien connu, détestons les condés, ils puent les pieds, ils sont cocus, il faudrait tout corne de la future police. Y a pas besoin d'un uniforme pour être flic, sous d'innocentes peaux de bique. y a des poulets qui dorment.
Merci à tous d'avoir écouté cette émission Humeur de début d'année. D'ailleurs, je souhaite aux feignants, aux crasseux, aux drogués, aux alcooliques une très bonne année. Aux PD, aux femmes, aux parasites, aux jeunes, aux vieux, aux artistes, aux tolards, aux guines, aux apprentis, aux noirs, aux piétons, aux arabes, aux français, une très bonne année. Je souhaite aux chevelus, aux fous, aux travestis, aux anciens communistes, aux abstentionnistes, convaincus, aux anarchistes, aux gauchistes de tout poil, une très bonne année. Je souhaite aussi à toutes les auditrices, quel que soit leur âge, leur nationalité, aux auditeurs également, aux animateurs et animatrices de fréquence Paris Pluriel, une très bonne année. Cette émission se termine. Très très gros bisous par milliers aux filles et grosses poignées de main aux garçons. Restez insoumis, vigilants et surtout ne lâchez rien. Salut.
Font leur pipi contre les murs, quelquefois même sur leurs chaussures. Pisser debout, ça les rassure, les hommes. Ont leur tige horizontale, leurs qui s'y font leur de babale, peuvent jouer à la bataille navale. Les hommes sont leurs disciples dans leur cul.